Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La durée d'instruction d'une affaire est dans un procès. Trop souvent, on assiste à des procès devenus élastiques, interminables. On va d'instruction en instruction à chaque fois qu'un nouvel élément fait son apparition. Et l'étendue de l'affaire devient lassante, crée le suspense, surtout chez les justiciables dont les dossiers ne sont même pas ouverts et qui se retrouvent en prison sans jugement pendant plusieurs années. Soit le jugement a lieu après 3 ans de détention préventive. Or, on est arrêté et détenu pour connaître son sort. Cela peut être une condamnation, soit un acquittement. D'où, quelle est la durée réelle de l'instruction d'une affaire? Quelles sont les sanctions prévues lorsqu'une affaire va au-delà des délais légaux? Le magazine de promotion de vos droits et devoirs, Droit et citoyenneté, aborde cette problématique avec les professionnels de la loi. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous. La durée d'instruction d'une affaire dans un procès, nous allons essayer de comprendre pourquoi trop souvent certaines affaires sont indéfiniment instruites. Nous recevons Maître Peter Ngomo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il nous en parle. Que dit la loi en ce qui concerne les délais judiciaires pour une instruction, pour un procès?
Merci bien, Jeff. Effectivement, pour certains cas, il existe des délais. Par exemple, en matière de violence sexuelle, la loi fixe un délai de 1 mois, c'est-à-dire instruction tant devant la police, les parquets, jusqu'au niveau du jugement, 1 mois. Mais malheureusement, dans les concrets, ce délai n'est pas toujours respecté. Il y a même aussi pour l'infraction d'association de malfaiteurs, parce que déjà l'instruction au niveau de parquet, ça prend déjà beaucoup de temps au-delà de la période même que le magistrat est censé instruire le dossier. Je voudrais peut-être vous rappeler que le magistrat militaire peut vous détenir pendant une année en détention préventive. Une année. Si lui estime qu'il est toujours en train de poser les actes, mais pendant une année, vous pouvez rester en détention. Avant qu'il ne fixe le dossier au niveau du tribunal ou de la
cour. Voire même 10 ans, comme on le voit le plus souvent à la prison centrale de Makala. Vous êtes toujours en détention préventive.
Ah ben bon, si on pouvait respecter ces délais-là, prenons seulement les cas même de... Bon, dans toutes les prisons, en fait, des détentions diminuées. Puisque, en fait, prenez les cas, si nous pouvons commencer. Un dossier, par exemple, lorsque vous êtes arrêté au niveau de la police. La loi et même la constitution dit que la garde à vue, c'est 48 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, on doit vous présenter au parquet. Aussitôt que vous arrivez au parquet, si les magistrats instructeurs estiment qu'il y a des raisons de croire que vous avez commis une infraction, qu'il y a des éléments ou des indices sur des culpabilités, ils vous placent sous MAP, mandat d'arrêt provisoire, qui n'a qu'une durée de 5 jours. Avant l'expiration de ces 5 jours-là, vous devez maintenant être présenté devant le juge en chambre du conseil pour que seul lui, le tribunal, la chambre du conseil, puisse confirmer votre détention. Si la détention elle est confirmée, c'est 15 jours de plus. Avant l'expiration de ces 15 jours, vous revenez encore à la chambre du conseil. Si sur demande du ministère public, il y a toujours des éléments autres, le juge peut encore proroger votre détention de 1 mois, 1 mois, 1 mois, 3 mois. Et au bout de ces 3 mois-là, quoi qu'il arrive, on doit fixer les dossiers. Mais malheureusement, vous pouvez aller à Makala, vous allez trouver des gens en détention pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans. C'est-à-dire que on a même déjà oublié le dossier. Donc la détention, elle est irrégulière. Or, c'est quelqu'un peut-être de qui, même si on pouvait instruire la cause, mais pouvait peut-être même être condamné, même à des petites peines. Mais il est là en détention préventive au-delà des délais même prévus par la loi. Déjà, vous voyez dire qu'au niveau du parquet, il y a déjà un problème.
Il n'y a pas de sanctions prévues lorsque les délais ne sont pas respectés.
Oui, mais les sanctions, elles sont toujours là, les prévues, mais qui va appliquer ces sanctions-là? Là aussi, il y a un problème au niveau, il y a un service inspectoral, service judiciaire et autres qui doit veiller pour tous ces genres de problèmes. Et même, les procureurs eux-mêmes aussi doivent veiller sur la tenue des dossiers par les magistrats. Un dossier, en tout cas au niveau du parquet, ne peut pas faire 6 mois, une année. Non, mais c'est aberrant quand même. N'est-ce pas? Et pour qu'à la fin, j'ai dit, mais imaginez-vous que vous ayez passé 2 ans, 3 ans de détention et qu'à la fin, vous condamnez pour une année. Mais les 2 ans, les surplus, là, vous l'aurez fait pourquoi? Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui que qu'on a un nombre élevé de prévenus en détention par rapport aux condamnés. Parce que les dossiers tels que traités au niveau de parquets ou de magistrats, ça prend énormément de temps. Et aussi, quand ça arrive au niveau des tribunaux, là aussi, il y a une autre léthargie. Bon, soit la composition n'est pas régulière, soit il y a un magistrat, un juge qui n'est pas là. Bon, ça, c'est un peu plus souvent ce qu'on est.
Un juge qui est malade.
Un juge malade et autres. Mais bon, c'est plus du côté juridiction militaire. Mais il y a aussi un désordre au niveau des Makala. Imaginez-vous que le tribunal est là, mon chef de détenu, il n'est pas là. Bon, ce jour-là, ça va passer. Et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir beaucoup d'aléas. Et, mais également, il y a un autre problème, même les délais pour les prononcer. Hein? On ne respecte pas toujours ça aussi. Il n'a fait que plus en délibéré aujourd'hui. On peut se prononcer après un mois, après deux mois. Ce n'est pas régulier. La loi dit qu'on a fixé les délais pour les prononcer. Et si on ne sait pas prononcer en dehors de ces délais-là, on doit prendre une ordonnance. Mais qu'on ne doit pas toujours renouveler, non. N'est-ce pas? Donc, les juges, il y a toujours des délais, malheureusement. Bon, on ne respecte pas. Mais c'est également qu'il faut déplorer qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Parce que si on contrôlait et que les magistrats ou le juge étaient sanctionnés, je ne pense pas qu'il revenait sur ça. Mais puisque, bon, c'est comme dans la jungle où il n'y a pas trop de contrôle, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le problème.
En expliquant la différence des procédures, et ça dépend des cas, comme vous le dites, de l'ampleur des infractions aussi, je crois. Ouais. Maintenant, lorsque le procès est déjà ouvert, il est en cours, quelle est l'étendue de l'instruction?
Bon, ça dépend d'un cas à un autre. Vous voyez, quand par exemple, il y a quel seul prévenu. Moi, j'ai déjà vu des cas, surtout par exemple devant la juridiction militaire. On peut vider l'affaire, hein, même devant la juridiction du droit commun. Hein, on peut vider l'affaire même les mêmes jours. Hein, si le cas n'est pas complexe. Et on prend l'affaire à délibérer, on va se prononcer dans les délais de la loi. Et
mais qu'est-ce voilà. qui explique cette complexité?
N'est-ce pas? Maintenant, la complexité, c'est par rapport peut-être au dossier. Si c'est par exemple un dossier où il y a eu beaucoup de prévenus, que soit les uns ont été arrêtés, d'autres n'ont pas été arrêtés, et autres, et tout ça. Ou bien par rapport aux témoins ou aux renseignants qui doivent être appelés, et autres. Vous voyez? C'est tout ça aussi qui peut rendre un procès soit trop long.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
La durée d'instruction d'une affaire dans un procès. Nous en parlons dans Droit et citoyenneté, le magazine de promotion de vos droits et devoirs.
Prenons les cas, parce que c'est les cas en vogue. Prenons les cas de dossier Chebea. Aujourd'hui, par exemple, ce que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas, moi je vais les aider à comprendre aujourd'hui. Si ce procès a repris aujourd'hui en appel, mais c'est parce que, à un moment donné, quand nous étions en appel, les juges.
Et ça, c'est le deuxième appel.
Enfin, oui, bon, ça comme deuxième appel. Mais les juges avaient eu à disjoindre les poursuites. Parce que tous les prévenus ne se retrouvaient pas dans les box des accusés. On n'avait pas pu mettre la main sur tous les prévenus. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que le juge, compte tenu aussi là aussi, comme j'ai parlé au départ des délais, des procédures, que chaque fois qu'on devait remettre. Il fallait au moins observer 4 mois. Puisque les prévenus n'étaient pas. On n'avait aucun élément pour retrouver les détenus. Vous voyez? Donc c'était pour éviter toute cette léthargie-là que la haute cour avait, sur demande du ministère public, à disjoindre les poursuites. C'est-à-dire qu'on a continué la procédure avec les prévenus qui étaient présents. Et ceux qui n'étaient pas là, on les a mis en fait de côté. Le jour où. On mettait la main sur eux, le procès allait reprendre. Dieu merci que 10 ans après, le 3 septembre 2020, on est tombé sur Christian. Le 14 février 2021, on a mis la main sur Jacques Mugabo et Paul Mulambe qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps ici. Voilà. Mais les procès, avec les deux déjà, les procès avaient repris. C'est-à-dire que si, comme nous sommes en train d'acheminer là maintenant, normalement la date avait été fixée pour le 12 janvier ici pour qu'on puisse plaider. Donc je ne pense pas que par rapport à ça qu'il y ait encore un obstacle. D'autant plus que tous les prévenus qui étaient à l'époque du fugitif, on a mis la main sur eux. Donc le procès reprend normalement jusqu'à son terme. Mais là également, il faudrait souligner une chose. que...
Mais là aussi, tous les fugitifs ne sont pas encore dans le box des accusés. Beaucoup sont encore à l'extérieur du pays, en dehors du pays.
Non. Concernant les dossiers, parce que là, il faudrait qu'on puisse, un peu vous situer. Les dossiers qui avaient commencé au niveau de la cour militaire, RP 066, quand on a prononcé, toutes les parties sont allées en appel. Et les ministères publics, et les parties civiles, et même les prévenus. Et en appel, les dossiers ont porté le numéro RPA 050. Donc c'est le dossier qui est en cours maintenant, n'est-ce pas? Et là, les trois fugitifs qui n'étaient pas là, c'est-à-dire Christian, Jacques et Paul Milambwe, tout se retrouve là aujourd'hui. Donc par rapport à ces procès-là, c'est la fin maintenant. Nous tendons vers la fin. Mais maintenant, il y a un autre volet du procès. Parce que vous vous souvenez bien que à l'époque, on s'était juste en fait chargé, on a arrêté ce qu'on a pu arrêter. Mais on avait oublié un autre élément important. Les exécutants. Qui avait exécuté? Ça, on n'avait pas tenu compte. C'est là où se retrouvent aujourd'hui, en fait, tous les autres fugitifs. Bon, aujourd'hui, il y en a qui sont fugitifs, mais il y a aussi, on est tombé sur deux hein, de ces fouillards-là. Mais les autres sont toujours encore dehors. N'est-ce pas? Donc, maintenant, il y aura un autre procès avec les exécutants et également avec John Numbi et le général Djadidja. N'est-ce pas? Mais toujours pour des faits liés à ce double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Donc ça, c'est un autre procès qui est en fait différent, mais c'est le complément du premier du procès qui est en cours maintenant.
Bon,
donc,
là, c'est
pour d'autres faits également. Oui.
Après Maître Peter Ngomo, nous recevons à présent Maître Merveille Moussouamba, avocate au barreau de Kinshasa Matete, qui commente l'opinion négative sur l'élasticité de certains procès.
En fait, en tant qu'avocate, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que c'est la procédure. Il est question de procédure, parce que chaque droit a une procédure. Comme vous le savez, des fois, la loi prévoit un délai dans lequel une instruction d'une affaire doit être faite. Cependant, vu les réalités, vu certains incidents qui peuvent intervenir au cours de l'instruction ou au cours du procès, cela peut faire à ce que ces délais ne soient pas respectés. Qu'à cela ne tienne, deux fois aussi, indépendamment de la volonté des parties ou du tribunal, les contraintes font à ce que aujourd'hui les délais prévus par la loi ne peuvent ne pas se respecter. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le cas de la Covid. Nous avons eu un confinement pendant longtemps. Qu'en est-il des procès ou des affaires pendant devant les tribunaux? Vous voyez, c'est indépendamment de la volonté et des parties et même du tribunal. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font à ce que aujourd'hui le délai prévu ou qu'on puisse dire qu'il y a un délai qu'on doit respecter dans une affaire, il est vraiment difficile.
Mais on vous condamne aussi, vous les avocats surtout, de profiter de cette durée pour grossir vos honoraires, en tirant les choses en longueur.
Non, vous savez que ce n'est pas la durée des procédures qui augmente les honoraires. Non, il y a des procédures qui nous prennent moins de temps, mais qui sont bien payées. Mais d'ailleurs, même les procédures qui nous prennent trop de temps, en fait, c'est un problème pour nous parce que nous avons beaucoup de dossiers qui arrivent. Et lorsque ça prend trop de temps, c'est une charge de plus. Donc, ce n'est pas toujours évident que les procédures font plus d'argent. Non, c'est pas question d'argent.
Mais qu'est-ce qui fait que souvent nous assistons dans des audiences où les avocats multiplient des incidents, des exceptions qui sont considérées comme des dilatoires?
Puisque c'est prévu par la loi, il est de leur droit d'utiliser pour le bien de leur client. Si l'avocat estime que cet incident est favorable à son client, pourquoi n'est pas l'utiliser? Parce que c'est dans son devoir, celui de défendre son client.
Et cela tire le procès en longueur.
Oui, puisqu'il faut vider, puisqu'il faudrait que le juge soit éclairé et que lorsqu'il rendra son jugement, que tout le droit soit dit ou toutes les possibilités de défense soient respectées. C'est un garanti constitutionnel aussi, le droit de la défense pour ceux qui se défendent et aussi ceux qui sont en justice.
Nous recevions Maître Merveille Moussouamba, avocate au barreau de Kinshasa Matete.
Outre la durée d'instruction d'une affaire dans un procès, quelle crédibilité peut-on accorder à certains témoignages au cours desquelles certaines personnalités sont citées dans la commission d'une infraction, comme c'est le cas au procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Est-ce que le simple fait d'être cité par un prévenu ou un renseignant constitue une preuve? Maître Peter Ngomo.
Je pense que, je dis moi, parce que nous avons l'article 249 du Code judiciaire militaire qui donne au juge le pouvoir d'apprécier. Mais partant de l'article 14, le juge ne peut pas apprécier. Mais on s'agit d'une vérification. On va vérifier, n'est-ce pas? On va vérifier. Parce que, par exemple, Paul Moulambe qui cite des gens, moi je ne vais pas répéter tout ce nombre de personnes-là qu'il a. Mais j'ai dit, mais lui-même il a dit pourquoi il les a cités. Mais parce qu'ils ont eu à un moment donné à poser des actes. Dans le cas de son dossier, il était en cachette là où il était. Un jour, il s'est permis de sortir et on l'a amené à l'auditorat général. Il dit, mais je m'attendais à être ramené en prison. On ne m'amène pas en prison, on m'amène ailleurs. Pourquoi? Mais c'est lui qui dirigeait à l'époque. Doit nous dire pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas ramené en prison? Pourquoi vous l'avez préféré le ramener ailleurs? Qui vous a donné cet ordre-là? N'est-ce pas? Cette institution-là dépend de qui? Qui en était le chef? C'est vous qui avez donné l'ordre? Et pourquoi? Parce que, à ce moment-là, Paul Moulambwe n'était plus fugitif. Il était en état d'arrestation d'ailleurs parce qu'il dit que je n'avais plus ma liberté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons quand même arriver à comprendre. Parce que ça a été un élément de la chaîne importante. Nous devons savoir. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Ne fût-ce que pas son récit qui jusque-là est crédible. Parce que depuis lors, Paul Moulambwe est parti. Ce n'est que maintenant qu'on l'a vu revenir. Maintenant, ce sont ces autorités-là qui ont été citées, qui doivent venir nous dire que, voilà, j'ai reçu l'ordre de tel et tel. Vous prenez l'exemple dans la déclaration de Daniel Mukalai, qui dit qu'à l'époque, on aurait remis 40 000 dollars au général Jean-Claude Yav. Mais ce monsieur doit venir nous dire qui lui a donné 40 000 dollars pour tuer Chebeya. Parce que nous sommes dans le cas du dossier Chebeya, nous devons tout connaître. Effectivement, la cour ne perdait rien. La cour ne perdait rien en faisant appel à toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes majuscules. Je n'exclus personne de venir comparaître devant elle pour nous dire par rapport aux déclarations de Paul. Voilà ce que Paul a dit. Qu'est-ce que vous connaissez de cela? Quelle est votre réaction? Dites-le nous, point barre.
Mais au procès du général Germain Katanga, il y a des noms qui ont été cités, mais personne n'a comparé jusqu'à ce que le procès a été clôturé.
Non, malheureusement, ce procès n'est pas encore clôturé. Le procès est toujours en cours. Hein? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la haute cour avait décrété une descente sur le lieu. Mais non.
N'a jamais eu lieu.
Non, mais c'est par rapport à la situation sécuritaire à l'intour, vous le savez bien. On ne va pas envoyer les gens comme ça pour qu'ils reçoivent des balles de main. Non, n'est-ce pas? Je pense que dès lors qu'il y aura accalmie sur le terrain, l'équipe va descendre.
C'est aussi une affaire des procès qui prennent du temps. Voilà un autre exemple d'un procès qui devient interminable.
Malheureusement.
On y reviendra plus tard, les gens l'auront déjà oublié.
Oui, malheureusement, ça c'est également un autre cas où c'est quand même inédit que les gens ne le savent peut-être pas. Qu'ils ont été gardés en détention pendant 15 ans comme prévenus.
Détention préventive.
Détention préventive, c'est inadmissible. D'ailleurs, qui était irrégulière, nous l'avons dénoncé, parce qu'il n'y avait plus aucun acte qui pouvait couvrir les détentions. Donc, 15 ans, ils ont entendu un procès. Vous imaginez ça?
Et là, quand on est condamné, c'est pour être acquitté ou bien pour aller plus loin?
Comprenez. Détention préventive. Et je vous dis qu'il y a encore des cas, il y a déjà à Makala aussi qui sont là, parce que la même situation. Mais c'est inadmissible. Vous voyez, inadmissible ce genre de choses. 15 ans, mais... Si on devait avoir des enfants, on en aurait combien? Au moins 7 ou 8. Mais vous êtes toujours là cloué.
Sans connaître votre sort.
Alors qu'il est bien dit, on doit vous juger rapidement pour quand même que vous puissiez connaître votre sort. Vous ne pouvez pas rester comme ça et tellement vous êtes en train de dormir et autres, tout ça. Alors qu'à Makala, il n'y a même pas d'activité que vous allez faire.
Ta 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 ta
La durée d'instruction d'une affaire dans un procès, quelle crédibilité peut-on accorder à certains témoignages au cours desquels certaines personnalités sont citées dans la commission d'une infraction? Après les avocats, nous recevons dans cette dernière séquence du magazine Droit et Citoyenneté un haut magistrat du pays. Nicolas Kedishimba nous éclaire sur cette problématique.
En ce qui concerne la crédibilité du témoignage, le juge, c'est un magistrat, un homme qui est formé pour pouvoir déceler les comportements de l'homme qui comparaît devant lui et savoir s'il dit la vérité ou s'il ne dit pas la vérité. Et il est mieux placé pour poser des questions, revenir sur la même question posée autrement et vérifier si l'homme maintient la même déclaration ou si l'homme se contredit. Et il ne va pas seulement se contenter des questions qu'il pose, mais il va aussi tenir compte des éléments du dossier. Qu'est-ce qui avait été dit avant? Qu'est-ce qui avait été fait dans le dossier pour pouvoir poser des questions aux témoins? Et je précise à ce sujet que le juge, après avoir entendu le témoin, c'est pas lui seul seulement qui pose des questions. Il y a aussi les prévenus qui posent des questions. Il y a aussi la partie civilement responsable qui pose des questions, la partie civile qui pose des questions. Bref, les parties posent aussi des questions aux témoins. Avec tous ces éléments, le juge peut se rendre compte que le prévenu a dit la vérité ou n'a pas dit la vérité. Et il peut se faire une conviction sur la réalité, la vérité juridique du dossier. Et je porte à votre connaissance, dans ce même ordre d'idée, que le législateur a prévu des peines contre un témoin qui vient mentir devant le tribunal. Et à ce sujet, nous devons aussi, vous comme nous, procéder à l'assainissement des mentalités des Congolais ou de tous les hommes appelés à témoigner devant le tribunal, parce qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent dire la vérité. Et avant de témoigner, on demande à chaque homme de prêter, de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. Et quand le juge découvre que le témoin s'est rendu coupable de faux témoignage, il le poursuit aussi. Et c'est ainsi qu'on peut condamner quelqu'un pour de faux témoignages, de fausses déclarations faites devant le tribunal. Et on condamne aussi un témoin récalcitrant qui refuse de comparaître devant le tribunal. Alors, quand le juge a entendu le témoin, et après l'avoir confronté aux différents éléments du dossier, il pourra alors se faire une conviction et déterminer si la religion du tribunal a été éclairé ou pas, si le témoin a dit la vérité ou pas. Et tout cela dépend de l'appréciation souveraine du juge. Et c'est le juge qui apprécie, qui voit si réellement le témoin a dit la vérité ou il n'a pas dit la vérité. Et le juge est mieux placé, est mieux formé, surtout nos magistrats sont mieux formés pour pouvoir confondre un témoin qui vient raconter des mensonges devant le tribunal. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la crédibilité d'un témoin au cours d'un procès.
La durée d'instruction d'une affaire dans un procès, Nicolas Kedishimba.
Maintenant, en ce qui concerne la durée du procès. Je peux commencer par l'instruction, ce qui se passe lors de l'instruction préjuridictionnelle. En réalité, chaque fois que l'officier du ministère public reçoit un dossier avec un prévenu, il doit commencer d'abord par l'audition du plaignant ou de la victime. Après, s'il y a des témoins, il les entend. Il interroge le prévenu et puis il vérifie s'il y a lieu de libérer le prévenu ou de le mettre en détention sous les liens de mandat d'arrêt provisoire. Et quand il constate que les faits sont réellement établis, en ce moment-là, il fait rapport à son chef direct dans le sens de mettre le prévenu sous les liens de mandat d'arrêt provisoire. Et maintenant, le législateur a prévu des mécanismes pour éviter les abus que le magistrat instructeur peut commettre à l'instruction de la cause. C'est ainsi que le mandat d'arrêt provisoire est valable seulement pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, le magistrat instructeur est tenu de présenter les prévenus devant le juge dans ce qu'on appelle la chambre de conseil pour que les juges étudient si les conditions de détention sont réunies afin de maintenir cet homme en détention. S'il constate que les conditions de détention ne sont pas réunies, il ordonne la main levée de la détention. Mais s'il constate que les conditions sont réellement réunies et qu'il faut accorder encore un délai au magistrat instructeur pour qu'il puisse mener et terminer l'enquête, là, il va signer l'ordonnance de mise en détention préventive qui est valable pour 15 jours. Si dans 15 jours, l'enquête n'est toujours pas terminée, le magistrat instructeur présente le prévenu de nouveau devant les juges dans la chambre du conseil pour obtenir la confirmation de la détention qui est valable pour 1 mois. Et il doit prouver au juge que réellement les raisons d'enquête exigent qu'il puisse garder cet homme pendant 1 mois encore pour mener l'enquête terminée, mener les investigations terminées et libérer en classant les dossiers sans suite ou en les classant par amende transactionnelle ou le fixer devant le tribunal. Et si, au bout d'un mois, il n'a pas terminé, il peut encore le présenter pour la deuxième fois, pour obtenir une deuxième ordonnance de confirmation. Et au bout de 3 mandats de confirmation, le juge doit libérer, à moins qu'il estime que les raisons, la sécurité, les raisons tenant à l'ordre public, aux bonnes mœurs, exigent encore qu'on maintienne cet homme en détention. Mais en réalité, il doit libérer. Et le magistrat du parquet est tenu de fixer le dossier au bout de 3 mois. Et s'il ne le fait pas, il doit justifier les raisons qui l'ont empêché de terminer les investigations au bout de 3 mois. Et quand on fixe le dossier devant le tribunal, le juge aussi ne peut pas garder les prévenus en détention, éternellement en détention. Il doit faire en sorte que, au bout de quelques audiences, 2-3 remises, il soit en mesure de prononcer sa décision. Et en réalité, c'est ce qui doit être fait. Mais aujourd'hui, il y a des abus qui se commettent, surtout par le fait qu'il y a manque d'encadrement, manque de suivi du travail du magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Et surtout, il y a absence totale des sanctions. Et là, je suis en train de soutenir le chef de l'État dans ce qu'il a dit, qu'il faut que les choses changent, que le Conseil supérieur de la magistrature puisse se mettre réellement au service en assurant l'encadrement adéquat des magistrats et en obtenant du gouvernement les moyens qui s'imposent pour qu'on puisse mener à bien le travail du magistrat, l'arrestation, la libération, ainsi qu'une bonne et saine administration de la justice. Voilà ce que nous disons en ce qui concerne la durée des procès. Mais il y a aussi d'autres éléments pour les dossiers qui reviennent. Quand on découvre, même après avoir rendu une décision, qu'il y a de nouveaux éléments qui permettent de découvrir la vérité, de condamner les fautifs et d'acquitter les innocents, on peut recommencer pour vérifier tous ces éléments, tous les nouveaux indices, tous les nouveaux éléments découverts et parvenir à dire la vérité judiciaire. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne la reprise des procès qui ont déjà fait des années. Et on doit connaître la vérité, il faut qu'on condamne le véritable coupable. Mieux vaut un prévenu en liberté qu'un innocent qui fait des années en prison à la suite des erreurs judiciaires.
Ainsi s'achève Droit et Citoyenneté d'aujourd'hui qui vous a entretenu sur la problématique de la durée d'instruction d'une affaire dans un procès. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et de rester toujours branchés sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.